Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, de 18h à 19h, parler d'actualité geek et ludique. Aujourd'hui, nous sommes deux pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Alors, nous allons bien sûr avoir plusieurs sujets au sommaire de cette émission. Nous allons parler d'actualité, d'agenda, de Kickstarter, un peu de jeux de société, un peu de jeux vidéo, un peu de robotique si nous avons le temps, le tout agrémenté de musique nippone. Des actualités, c'est vrai qu'on va très peu voir ce qui se passe au niveau musical là-bas, donc ça permettra d'écouter de nouveaux albums. Alors, il y a une tradition dans cette émission, c'est de demander à Dominique ce qu'il fait le week-end.
Tout à fait.
Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes perdus. Donc je vais te poser la question à toi, Reynald. Qu'as-tu fait ce week-end ?
Ce week-end, j'ai un peu préparé l'émission. Dominique doit se renverser de sa chaise d'un coup. Et j'ai fait quelques jeux de plateau dont on pourra en parler. J'ai pas mal joué aussi à Sea of Thieves et The Elder Scrolls Online. L'un pour la quatrième anniversaire d'existence de Sea of Thieves et Tezo pour préparer la nouvelle extension qui se prépare.
On en parlera tout à l'heure.
Donc effectivement, c'était un week-end chargé, les yeux bien explosés, mais c'était un plaisir.
Alors, on va tout de suite ouvrir l'agenda. Alors, on va parler bien sûr d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain. C'est l'ouverture des portes de Ludinor qui reprend, ça y est, son salon qui réunit dans le Nord, je pense, le plus de joueurs de jeux de société, et voire plus, hein, ouais, qui se base à Mont-Saint-Barœul.
Tout à fait. Je me rappelle la fois où on y était ensemble, où on avait quatre lieux différents pour y aller. Il y avait la salle pour le jeu de rôle, la salle pour les concours de jeux de cartes, la salle du fort et l'autre salle au fond. C'était devenu énorme, voire trop imposant. Et là, cette année, ils ont décidé d'en refaire donc en petit comité. Et avec les... Quoi, il doit y avoir 600, entre 600 et 1000... 1000 places qui ont été vendues.
Un peu plus.
Un peu plus.
Ouais. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, ont été remises en vente des places, puisque 500 nouvelles entrées ont été disponibles. Alors, je pense que c'était ouvert à 14h, donc je n'ai pas fait le check, mais pense qu'on a déjà cramé, puisque beaucoup de personnes ont dû se dire « Oui, mais attendez, moi, je n'étais pas là, ou je n'ai pas forcément eu l'information. » Donc, une semaine avant, ils nous ont permis donc, de récupérer quelques entrées. Alors, cette fois-ci, on ne se réunira que sur une salle.
Oui, on revient aux fondamentaux du salon, ce qui veut dire... venir jouer et essayer des nouveautés, essayer des jeux qu'on ne connaît pas forcément des nouveautés. Je ne sais même pas s'il y a une foire aux jeux. Enfin, c'est vraiment, on revient pour jouer aux jeux de plateau, découvrir des jeux et aussi jouer ensemble, jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas et pourquoi pas connaître des personnes et jouer avec elles plus tard aux jeux de plateau.
Voilà, donc... bien sûr, les personnes, on a toujours les bénévoles avec leur t-shirt jaune. Qui seront là-bas. Donc, c'est la semaine prochaine. Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'avoir vos places. Donc, samedi 10h21 et dimanche 10h-19h à Mont-Saint-Barœul. Ouais.
Normalement, j'y suis les deux jours. Donc, potentiellement, un petit retour dimanche soir prochain.
Je pourrais te demander à nouveau ce que tu as fait ce week-end.
Ça va faire drôle, mais effectivement...
Alors, cette fois-ci, un autre événement qu'on pourra consulter en ligne, qui aura lieu le 21 et le 24 mars, c'est la NVIDIA GTC 2022, hashtag la conférence mondiale en ligne sur l'intelligence artificielle. Or, le tout est gratuit, donc ça vous permettra... d'avoir plusieurs conférences, plusieurs discussions avec notamment des développeurs, des data scientists, des formateurs, des chercheurs, des responsables et décisionnaires informatiques, des leaders de l'industrie, des créateurs. Et aussi, on va voir au niveau de l'écosystème de services publics.
Oui, parce que c'est bien beau de créer, mais pour quelle utilité ? Comment cela peut-il aider l'être humain, que ce soit dans le domaine médical ou dans l'énergie, au moins dans l'humanitaire, où est-ce applicable ?
Alors, on le verra, je pense, en fin d'émission. C'est vrai que également, donc il y a l'intelligence artificielle, il y a également la robotique, et des fois les deux s'allient pour créer un humanoïde.
Mais les gens ont de plus en plus peur de ça. Donner une intelligence artificielle à un robot, c'est risqué.
Donc, pour ça, très facile, vous allez vous chercher au niveau de NVIDIA GTC pour avoir tous les liens et pouvoir assister à certaines des conférences. On le rappelle, c'est gratuit, c'est du 21 au 24 mars. Ça peut toujours être intéressant. Alors, forcément, il va falloir avoir des petites bases en anglais pour suivre la majorité de ces conférences, bien sûr. Un autre petit événement, Reynald ?
Celui que tu veux, il n'y a pas de souci.
Je te propose de regarder. Alors, c'est vrai qu'on a cité Ludinor tout à l'heure. Ludinor va aussi récompenser certains créateurs de jeux de société avec des prix. Donc, un peu comme on peut voir à l'Asdor, etc. Mais cette fois-ci, vraiment spécialisé pour les créateurs. Est-ce que Ludinor, c'est vraiment un tremplin pour toutes ces personnes qui créent leurs jeux de société ? Donc, il y aura ça. Et pourquoi je cite ces créateurs ? Puisque on a pu voir, et cette fois-ci dans le domaine du jeu vidéo, ce sont les Pégases 2022. On a enfin la liste des gagnants. Alors, on en avait parlé avec la liste des nominés. Cette fois, ce sont les résultats. Alors, celui qui remporte plusieurs prix...
Ouais, il y en a deux qui sont sur le haut du panier... vraiment le top, ce qui est quand même Deathloop et Road 96. Ils sont deux très bons jeux d'ailleurs. Mais comment les expliquer à la radio sans se prendre la tête et sans complexifier et embrumer les esprits des auditeurs ?
Je te laisse plancher, tu as deux heures.
C'est parti.
Alors, Deathloop, c'est une sorte de jeu un peu d'aventure.
D'aventure temporelle où tu dois... faire pas mal d'objectifs, mais dès que tu en rates certains, je crois, c'est ou si tu meurs un certain nombre de fois, tu redémarres le jeu, tu redémarres sur la plage, tu te réveilles, mais tout ce que tu as vécu, tu le gardes en toi. Si tu as découvert un papier, tu t'en souviendras. Si tu as ouvert une porte, elle restera ouverte. Si tu as découvert un code, ce code sera toujours actif. Et c'est te permettant d'aller de plus en plus loin et découvrir les trames scénaristiques qui te permettent de finir le jeu. C'est un FPS... Et il y avait aussi le mode multijoueur qui, de mémoire, te permettait d'aller dans la partie de quelqu'un, jouer l'antagoniste du héros et de pouvoir lui, entre guillemets, lui pourrir la partie. Ça n'a pas très bien fonctionné parce que forcément, il y a une très forte communauté toxique sur certaines tranches d'âge, mais c'était une excellente idée pour une fois, pour un mode multijoueur. Pour Road 96, par contre, tu joues des enfants qui font des fugues et qui essaye de passer une frontière, mais la particularité de ce jeu, déjà, de mémoire, il est en cel-shading, et donc il a une certaine patte graphique, et en plus, c'est... Comment dire ça sans trop perdre les auditeurs, tout est fait pour que la prochaine aventure ne sera pas du tout identique à la première. Il y aura d'autres événements, tu auras d'autres questions, les événements que tu vas arriver en début d'aventure ne vont pas arriver pareil à la fin. Scénaristiquement, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer ça sans trop embrouiller tout le monde.
Voilà. Et je t'ai laissé complètement à l'abandon parce que je suis en train de me battre avec le PC de Radio Campus.
Alors que c'est toi qui as le PC qui pouvait rebondir sur ce que je disais, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Voilà, les joies de la technique.
Ouais, pour Road 96, j'avais joué l'année dernière quand il était je crois que c'était en bêta, de mémoire. Et il y avait pas mal de streamers aussi qui s'y étaient mis et qui jouaient. Et ils prenaient un malin plaisir alors que c'était juste une aventure à choix en disant, tu es sur une route pluvieuse, tu avances, il y a un véhicule qui s'arrête pour te prendre en autostop. Tu montes dedans et tu vois que le mec qui te prend a l'air complètement psychopathe. Et à toi de faire les choix de pouvoir faire cette étape de ton road trip de fugue en restant entre guillemets vivant et voir si déjà tu t'en sors et si oui, comment ce psychopathe dans la voiture va revenir plus loin dans ton aventure, dans quelle façon, suivant les choix que tu auras fait.
Un jeu prenant alors.
Ouais.
Alors, je vous propose de faire une petite interlude musicale. Je vous l'ai promis de voyager du côté du soleil levant avec ses actualités musicales. Un groupe qui est assez connu pour le coup, et après on verra des groupes qui démarrent cette fois-ci. Là, c'est Asian Kung Fu Generation, qui est notamment connu pour des génériques tels que celui de Naruto, par exemple. Et là, donc, continue toujours et propose un nouvel album. Ici, la chanson qu'on va s'écouter est un feat avec Ralph Bart Baron, qu'on connaît tous, hein, bien sûr, Reynald.
Tout à fait.
Et la chanson qu'on va s'écouter s'appelle You to You. Kung Fu Generation sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. Et dans notre émission Heureusement en France, on en profite, une petite parenthèse. Alors vous le savez très bien si vous êtes déjà un fidèle auditeur de Radio Campus, mais voilà, il y a sur la page du site internet de Campus un appel aux dons suite aux catastrophes climatiques qui ont coûté le mât de l'antenne qui est tombé. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez vous rendre sur le site et faire un don, qu'il soit de 1 euro ou plus.
Fonction des moyens et de si vous souhaitez, bien sûr.
Voilà. Alors, on va continuer cette fois-ci, partir un peu dans le Kickstarter. C'est vrai que ça fait un petit moment que nous n'avons pas été fouillés un peu dans ces projets participatifs. Et donc, plusieurs petites choses qui, certains sont prêts de se finir et d'autres, on a encore le temps. Alors, on peut parler de Yoshitaka Amano's VR Museum, où la fantaisie devient réalité.
Et fantaisie, tu portes bien son nom.
Alors, Yoshitaka Amano, c'est un des artistes qui a le plus influencé, qui nous vient du Japon, notamment sur les artbooks de Final Fantasy.
Oui, c'était un des premiers à créer et mettre une patte graphique artistique sur les Final Fantasy et d'autres jeux après ultra connus aussi.
Vampires Hunter D et Gatchaman. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais du coup, pour célébrer un peu son œuvre, se met en place donc ce musée virtuel, un peu dans le méta qu'on peut citer maintenant. Et voilà, ça promet. Alors actuellement, nous sommes à un objectif, alors j'ai pas forcément l'objectif de 8700 euros, et nous sommes à 99 279.
Bon, on va dire que c'est fait.
On peut dire. Alors, j'aime bien aller voir les contreparties. Alors ici, forcément, c'est en yens, mais bon, vous pouvez le convertir hein, si vous participez. Alors, vous pouvez recevoir des t-shirts, des talk bags, des hoodies, si vous participez vraiment aux tiers les plus importants. Et pour le minimum, un wallpaper pour votre PC.
Waouh. Mais effectivement, la monnaie, le yen, est souvent, enfin, fait peur, parce que là, on voit le 6380 yens, mais en fin de compte, on voit tout de suite que ça a été mis, en fait, que ça revient à environ 49 euros.
Donc, il y aura 5 expositions différentes. La première, Time Capsule. La deuxième, Nightfall. La troisième, Final Fantasy. La quatrième, Vampires Hunter D. Et Chujo. Alors, on verra bien sûr ces œuvres, certaines œuvres en 2D, mais également d'autres modélisées en 3D. Et vous pourrez vous balader comme si vous étiez dans une exposition. On m'indique qu'il n'y aura pas pour l'instant de concert de Jean-Michel Jarre à l'intérieur. Quel dommage. Mais voilà, ça peut toujours faire plaisir. Et vu qu'on vient de s'écouter une petite musique du Japon, pourquoi pas en même temps visiter un musée virtuel ? Un autre projet, cette fois-ci, on repart sur un magazine dont on a longuement parlé la dernière fois, c'est le Casus Belli.
Une des bibles pour le jeu de rôle français.
Qui propose un documentaire, c'est ça ? Pour revivre un peu les histoires du jeu de rôle en France, ce qu'ils appellent un peu les années Casus. Donc un film, cette fois-ci, documentaire.
Ouais.
Alors pour l'instant, il y a 37 souscripteurs, donc il reste 20 jours pour participer. Donc si vous êtes bien sûr un fan du jeu de rôle, vous pourrez retrouver donc des acteurs majeurs tels que Didier Guisery, Anne Vettilard, Peter Watts, Jean-Marie Noël, Pierre Rosenthal. Et plein d'autres qui vont un peu égayer ce documentaire avec des interviews et revivre un peu toute l'histoire du jeu de rôle.
Ouais. Et forcément, dans les contributions, ce qu'on peut avoir, c'est ne serait-ce que juste pour 15 euros, qui est la partie minimum qu'on puisse donner pour appuyer ce projet, qui est d'avoir son nom générique de base, et ça peut aller très très loin, jusqu'à 1000 euros. Et là, on devient gardien de la légende de Casus Belli, ce qui est déjà quand même un titre honorifique et vraiment pas mal. Où là, on a toutes les contreparties précédentes, mais en plus, on a une invitation pour la journée de tournage. On sera invité dans le cinéma parisien pour voir une première, assister après une petite soirée VIP avec des personnes qui ont été dans le film, tout ça. Donc, pour les fans de jeu de rôle et de l'univers du jeu de rôle, donc tout ce qui a été dans l'industrie du jeu de rôle, peuvent s'y retrouver et ça va vraiment être sympa.
Alors ça me fait penser à une journée de tournage, c'est un peu comme la série Noob qui avait proposé ça, donc de faire venir des contributeurs pour participer, être déguisé et apparaître carrément dans le film. Alors là, ici, on assiste au tournage, donc ça permet de discuter avec un peu avec l'équipe de production et avec certains acteurs, enfin acteurs dans le sens où ils participent au documentaire. Et ça, c'est vrai que quand on parle de Noob, j'en profite puisque Dominique n'est pas là pour me lancer
des regards meurtriers.
Mais c'était impressionnant de voir toute cette communauté qui participait et qui avait quand même battu à l'époque les records de Ulule, ouais. Qui avait dû changer sa politique de financement justement au succès, puisque le pourcentage qu'ils prenaient devenait tellement important qu'ils avaient dû adapter tout ça. Donc, les années Casus sur gameontabletop.com pour participer.
Et là, tu vois que le Casus Belli est bien un magazine de l'univers des années 90, où dans les contreparties, quand tu arrives à un certain stade, ils te proposent donc d'avoir une affiche du film au format A2, mais aussi le livre photo du tournage dédicacé, donc pour l'instant tout va bien, et par contre le DVD du film. En plus de la version numérique sûrement. Mais
je voulais pas que tu me lances sur ce sujet, mais je sens que ça va déraper, vas-y.
Non, mais juste dire, voilà, c'est l'optique du... Pas dire que le rôliste est régressif, c'est-à-dire moi je joue encore avec les DVD, machin, non, c'est pas ça du tout, mais c'est le côté où le possession de l'objet, comme je possède un jeu de rôle rare, le livre du maître, enfin tout ça, tu pourras aussi avoir le DVD, le boîtier DVD contenant le documentaire jeu de rôle. Et j'espère que c'est comme ça qu'ils l'ont vu.
Moi, je reste un peu, alors non pas fâché, mais surpris de voir qu'on vend encore des formats physiques, en fait.
Oui, tout le monde n'est pas à jour sur les réseaux, ou l'utilisation des réseaux plutôt.
Oui, on va dire ça. Ouais. Voilà. Alors, je vous propose de refaire une petite interlude musicale avec un autre album, cette fois-ci, une découverte, à coup avec Kan Lakoe. Alors, c'est du japonais et oui, je ne sais pas forcément tout. Tout lire.
Tu faisais pas des cours de japonais plutôt ?
Mais non. Grâce à cette magnifique application, hein, c'est ça qui s'appelle Duolingo.
Tout à fait.
Haku avec leur nouveau mini-album Wakamononiki et la chanson que vous écoutez, Karan Koe. Et oui, toutes ces années de japonais qui servent enfin. Allez, on va enchaîner. On parlait de Kickstarter et on va partir dans un univers qui nous affectionne, qui est le jeu vidéo et le jeu de société. Ce sont ces adaptations de jeux vidéo en jeux de société. Alors, la première qui est sur Kickstarter, c'est Might and Magic Heroes 3, qui pourrait être dans mon top list des jeux vidéo qui m'ont le plus marqué ici. Alors, Might and Magic, à la base, est une sorte de jeu de rôle où, en vue de première personne, où on se balade dans des couloirs en avançant devant ou de gauche à droite.
Ah ouais, tu vois le Dungeon Crawler. Moi, je pensais au jeu de stratégie au tour par tour.
C'est ça. Et ensuite, ouais, vous avez le Heroes and Might and Heroes Magic. Magic, ouais. Là où on a une sorte de petit jeu de gestion d'unités, de ressources, où vous allez ensuite vous balader sur un terrain pour aller conquérir le monde.
D'autres ressources et conquérir les villes qui sont à côté de vous, parce qu'elles ont eu le malheur de ne pas être à vous.
Alors, bien sûr, comme tous les jeux vidéo à succès, il a forcément été remanié pour plusieurs versions, puisque je pense qu'aux dernières nouvelles, nous sommes au Heroes and Might and Magic 6, voire peut-être 7, à vérifier. Mais celui qui va rester dans les mémoires est le 3, qui est vraiment la version aboutie des deux premiers, et celui qui s'est ouvert un peu au jeu multijoueur local et qui a vraiment plu à la majorité, je pense, et qui a marqué les esprits. Alors, c'est vrai que là, on a un Kickstarter qui propose de reprendre, cette fois-ci, un jeu de société basé sur cet univers, basé aussi sur cette mécanique où on va donc poser des tuiles, puisque c'est vrai que le terrain de Heroes and Might and Magic était sur des tuiles.
Ouais. Puis il y avait aussi une sorte de brouillard de guerre de mémoire, que quand tu ne connaissais pas le terrain, tu voyais quelque chose de grisâtre devant toi, et il fallait avancer tes unités ou ton personnage pour pouvoir voir le terrain qui se développait autour et te rendre compte que seulement l'exploration te permettait d'avoir après une bonne gestion de tes unités et de ne pas avoir des pertes inutiles.
Et tu construisais ensuite tes unités que tu pouvais améliorer
dans les villes avec les garnisons. Tu créais une tour de sorcier pour avoir après l'unité de sorcier dans ton armée. Parce que tant que tu ne l'as pas fait, tu n'en as pas. Tu avais toute une gestion, comme tu disais, de ressources, mais aussi de développement de villes. Et chaque ville avait ses propres ressources et créations que tu devais faire.
Alors, on en parle aujourd'hui, mais à savoir que pour l'instant, le Kickstarter n'est pas ouvert, on en est encore. C'est pour ça. Pourquoi tout cet effort pour ça ?
Non, mais c'est ne serait-ce qu'un jeu comme Heroes of Might and Magic, c'est la recette à succès pour un jeu de plateau, pour un jeu de rôle, c'est les mécaniques de base. Donc là, Heroes of Might and Magic en jeu de plateau, je dis oui. Ce qu'on te propose, c'est comme un 4X, tu vois, tu vas explorer, tu vas détruire les personnes, tu vas t'étendre et aussi tu vas faire de la gestion de ressources. Ce sont les 4X d'un jeu de plateau et que peut-être ta partie va durer 2 heures et que à la fin t'en auras marre, mais tu vas vivre une aventure.
Donc, les créatures seront transformées donc en cartes avec forcément des points d'attaque, des points de coups, des points de vie, des cartes que pourrez sûrement améliorer avec des petites figurines qui vous permettront de simuler le combat, comme je l'ai dit, des tuiles de terrain dans le format du jeu vidéo. Vous pourrez donc faire votre armée, vous pourrez collecter des artefacts. Attention.
Pour ton héros.
Voilà, ouais. Et avoir des cartes de magie et aussi ce qu'on retrouvait dans le jeu, donc des level-up de héros, donc des niveaux que vous allez pouvoir affecter à votre personnage qui vous donneront des compétences supplémentaires pour soit recruter des unités sur le terrain ou avoir plus des bonus en attaque, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui tape à l'œil, en tout cas au niveau graphisme, puisqu'on retrouve tout ce concept de l'époque. Ça promet, et c'est en novembre 2022 qu'on pourra enfin cliquer sur ce bouton pour rajouter un jeu sur l'étagère qui est déjà bien rempli de nos jeux de société
tout à fait,
auxquels on ne joue jamais.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'y jouer. Il faudrait arrêter de travailler pour y jouer.
Alors, un autre jeu, et cette fois-ci qui va plaire à beaucoup de gens, c'est Cyberpunk, qui va aussi se lancer dans l'aventure de lancer son Kickstarter pour une adaptation en board game. Alors, à la base, il s'était dit, tiens, on va faire juste un petit jeu de cartes. Et au fur et à mesure de sa conception, se sont dit, on va le développer en jeu de société.
Ouais, la limite entre jeu de cartes et jeu de société, maintenant, c'est très, 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 très fine. T'as des mécaniques de jeux de société qui rentrent dans les jeux de cartes et inversement. Des fois, ça s'imbrique même que une des mécaniques de jeu de cartes devienne la mécanique prédominante du jeu de société, peut-être, mais des fois, on fait juste une partie pour que ça devienne, après, une des tactiques stratégiques pour la gagne. Mais maintenant, tu peux plus définir un jeu de cartes comme uniquement un jeu de cartes. Un jeu de cartes, maintenant, est devenu un jeu de société.
C'est ça. Donc, vous allez pouvoir vous relancer dans le RPG prochainement. Donc, on promet pour 2022, tout ça publié par Semon. Donc, à venir. Un autre jeu, et cette fois-ci, on part bien sûr sur la licence favorite des geeks. J'espère ne pas trop m'avancer. C'est The Elder Scrolls qui va lancer également son board game, même si on avait pu le voir notamment avec Skyrim, qui avait eu droit à son adaptation en jeu de société. Ici, un peu reprenant ces mêmes mécaniques, Elder Scrolls va se lancer également dans l'aventure. On pourra retrouver ça sur Kickstarter en 2022. Alors, tu parlais tout à l'heure de Elder Scrolls. On attend, bien sûr, qui est en préparation, le nouveau Elder Scrolls, qui sera la version 6.
Tout à fait, et qui commence à tarder. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il sortira un jour, parce que plus le temps passe, plus les fans les attendent au tournant.
Mais est-ce qu'on ne divisait pas ça de chaque version? C'est un peu comme un GTA, c'est quelque chose qu'on voit très très loin.
Ouais, mais dis-toi qu'on a dépassé le stade d'attente entre Skyrim et Morrowind. Tu vois, là, entre de maintenant à Skyrim, il y a autant de temps qu'il y a eu, voire plus maintenant, entre Skyrim et Morrowind.
Oui, mais attention, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, on a eu quelque chose que n'avait jamais fait Bethesda, qui est un jeu de rôle en ligne sur lequel ils ont dû investir du temps avec des mises à jour.
Et surtout, un Elder Scrolls 4 que tout le monde oublie, parce qu'entre Morrowind et Skyrim, il y a quand même Oblivion.
Oblivion qui n'était pas... C'est un bon jeu, Oblivion. Le seul défaut d'Oblivion, c'est d'avoir voulu entrer dans ce domaine du jeu de console et d'avoir un peu...
Bah, avoir les restreintes, les restrictions physiques des consoles, matérielles, quoi.
Surtout au niveau de lui qui avait vraiment impacté le jeu. Je pense qu'il aurait été fait que PC. Oblivion aurait pu être une merveille, même si là,
Morrowind était aussi sur Xbox.
Donc on parle des mises à jour Elder Scrolls. Est-ce que on a une prochaine mise à jour à venir? Puisque je sais que de temps en temps, un peu comme dans les World of Warcraft, on vous propose un gros pack sur lequel vous allez devoir investir.
Là, sur Tezo, donc cette fois-ci, donc The Elder Scrolls Online, donc la version MMORPG de la licence Elder Scrolls, on arrive pour 2022, ce qu'on appelle l'archipel des Sistres, qui est la nouvelle grosse extension qui arrive pour 2022, c'est toute la vie des Bretons. C'est une des races que tu peux jouer. Et les Bretons, c'est ce qu'on peut appeler plus couramment Games of Thrones. Et là, tu vas aller sur l'archipel des Bretons, où tu vas avoir toutes les problématiques politiques, les différents types de duchés, le voisin qui va assassiner son autre voisin parce qu'il y croit ou il pense qu'il va... Tout le domaine politique que tu n'as pas dans The Elder Scrolls Online, qui est pour l'instant basé sur « tu es un héros ». Tu vas avoir une quête à faire. La quête à faire, ça va être sûrement parce qu'à cause d'un Daedra qui vient essayer de poutrer le Tamriel, qui est le monde actuel du jeu. À chaque fois, tu reviens systématiquement sur un Daedra quelconque qui essaye de foutre la merde dans le monde où tu te trouves. Là, ils essayent de s'ouvrir sur un mode un peu plus bon. Ce qui est dommage, c'est que ça va ressembler un peu à des énigmes politiques à la Game of Thrones, mais ça va te changer, tu vois. Et tu parlais de jeu de cartes, c'est que là, ils vont essayer d'implémenter, parce que là, il y a déjà une petite mage qui a été faite sur le MMORPG, où ils ont rajouté deux donjons que tu peux faire en groupe. Mais la grosse mage se fera le 6 juin sur les PC et un peu plus tard sur les consoles. Et tu vas avoir, pareil, un petit jeu de cartes, comme tu parlais tout à l'heure. Mais c'est un jeu de cartes, ils essayent de hyper le monde avec ça, où tu vas pouvoir commencer à y jouer dans des tavernes. Et c'est des cartes que tu vas devoir créer ton paquet. L'adversaire va créer son paquet. Les deux paquets vont se mélanger pour créer un seul paquet que les deux joueurs vont jouer ensemble avec. Donc si tu fais un très bon paquet de cartes pour poutrer ton adversaire, il va avoir les mêmes cartes qui peuvent aller contre toi. Et enfin, tu peux avoir dans ces jeux-là, aller dans faire ton aventure, trouver des cartes à droite, à gauche. Ça me rappelle un peu le jeu de cartes de Final Fantasy, mais bon. Et ils essayent d'implémenter ça et voir si ça va prendre, comme ils avaient fait il y a 2 ans maintenant, les Antiquités, sur Grimoire, de mémoire, et qui avaient pris, mais pas tant que ça.
Alors, je pense que c'est une bonne idée, puisque tu parles du jeu de Final Fantasy IX, je suppose, notamment, qui, pour moi, j'aurais rêvé avoir une adaptation de ce jeu, par exemple, sur mobile.
Ouais, ou ne serait-ce que le jeu de cartes Elder Scrolls.
Alors, on parle du jeu de cartes Elder Scrolls Legends,
voilà,
que Bethesda a lâchement
abandonné.
C'est dommage, puisqu'il y avait un fort potentiel.
Ah oui, c'était un des rares jeux qui te proposait deux plateaux pendant la même partie, un plateau lumière, un plateau ombre, et tu pouvais avoir des cartes en fonction, et bah, tu devais défendre et attaquer sur les deux.
Le seul défaut de Elder Scrolls Legends, c'est qu'il se battait contre un adversaire plus fort que lui, qui est Hearthstone.
Ouais.
Qui, pour exactement le même type de gameplay, le même type de mécanique, on avait du mal à se dire, bon, pourquoi choisir Elder Scrolls Legends qui a du mal à sortir des mises à jour, contrairement à la machine de guerre qui est Hearthstone, qui est vraiment le cheval de bataille actuel de Blizzard.
Mais dans ces cas-là, pourquoi tu ne l'aurais pas greffé justement dans le MMORPG ?
Est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train d'essayer de faire ?
Peut-être. Mais la mécanique que je viens de citer n'a rien à voir avec la mécanique de Scroll Engines. Peut-être parce que c'est deux studios complètement différents, qu'il n'y a pas d'accord potentiel, je ne sais pas.
Alors, petite interlude musicale avant de continuer sur un autre jeu vidéo. On va s'écouter... Et ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à l'émission qui passe le matin, qui est le Twitch Café, où ces courageux qui se lèvent tôt à 10h du matin pour parler également d'univers geek. Et je sais qu'ils sont fans de Chip Tunes, un peu la musique des jeux vidéo à l'ancienne, voilà, pour traduire pour
faire
pour les néophytes. On va s'écouter un des masters, un des dieux du chiptunes, ou en tout cas quelqu'un qui a inspiré et qui a participé à cette vague de musique, qui s'appelle Chip Tanaka. Et on va s'écouter la chanson qui s'appelle 1912. Alors attention, parce que je remets en route le PC en espérant qu'il fonctionne. Reynald, ne me demande pas si quelqu'un est en train d'égorger un ordinateur.
Non, mais en tout cas, l'ordinateur, faut l'éteindre, faut arrêter, il souffre là, non ?
J'ai peut-être choisi une musique qui n'est pas forcément représentative du style de musique de Chip Tanaka. En tout cas, elle s'appelle 1912, elle est issue de l'album Domani. On s'écoutera peut-être on lui donnera une seconde chance. Voilà. On enchaîne cette fois-ci on continue sur... Alors là, ça ne sera pas un jeu de société, mais sur un jeu de rôle qui est issu d'un jeu vidéo. On va vous parler de la mer des voleurs, The Sea of Thieves.
Ah, enfin.
Puisque c'est vrai, on ne l'a pas notifié, mais il y a ce jeu de rôle qui est disponible, alors qui coûte 70 euros, voire un peu plus. Hein.
70 livres, pour être exact. Ouais.
Et qui vous propose donc de jouer autour d'une table pour recréer ses aventures du jeu vidéo. Alors, on en a souvent parlé, mais c'est vrai que Sea of Thieves reste un jeu sans abonnement qui bénéficie de mises à jour constantes, ce qui est assez rare quand même dans l'univers du jeu vidéo, où généralement on a le droit, lorsqu'on s'abonne, hein, je parle des MMORPG, on l'a cité tout à l'heure, Elder Scrolls, World of Warcraft, où là, votre abonnement justifie le fait que chaque mois, vous ayez du nouveau contenu.
Ouais, pour Tezo, c'est tu n'as pas d'abonnement que tu peux prendre, parce que ça te rajoute quelque chose au jeu, mais tu devras repayer les prochaines extensions. Mais tu n'as pas d'abonnement propre. Mais tu payes quand même.
Ici, Sea of Thieves est quand même un jeu donc, que vous achetez une fois et vous jouez indéfiniment. Et ensuite, tous les achats in-game sont des achats cosmétiques.
Ouais.
Qui ne vous donnera, c'est un peu à la style à la Fortnite, où vous n'avez pas forcément d'avantages.
Ah oui, non, c'est que si tu progresses dans le jeu, c'est grâce à ta propre expérience, à ta propre façon de jouer qui change et qui s'améliore. Tu ne peux pas dire, je vais acheter telle arme ou tel bateau qui va me rapporter plus 10 en vitesse et je vais rattraper mon... Non, si tu rattrapes ton ennemi, c'est que tu as réussi à mieux gérer ton bateau, à mieux attraper le vent dans tes voiles pour rattraper ton ennemi justement et lui mettre un coup de canon.
Alors, la dernière fois qu'on a parlé de Sea of Thieves, c'était avec cet événement qui se lie à l'univers de Disney, qui est le Pirate des Caraïbes, où on avait ce qu'on appelle les fables, ce sont des aventures en jeu qui vous permettaient de retracer un peu certaines histoires du capitaine Jack Sparrow. Et là, dernièrement, on sent que Sea of Thieves essaie un peu de coller au jeu de rôle, puisqu'il a lancé un système de fort que vous allez conquérir, et ensuite vous pouvez vous installer dans ce fort et essayer de jouer un peu de style jeu de rôle, à faire semblant qu'il est le vôtre, à vous installer à table, à le défendre, alors que vous n'avez strictement aucun intérêt à le faire.
Ah oui, pas du tout. D'ailleurs, ceux qui font ça sont purement un peu... trop confiant en eux, parce que quand un événement sur Sea of Thieves est présent, il est annoncé, donc généralement on voit un grand crâne pour dire qu'il y a un fort squelette qui est en cours, et donc tout le monde va aller le faire pour avoir les richesses qu'obtenir quand on le termine. Et une fois que justement le crâne s'enlève, c'est-à-dire que le fort est terminé, et donc là tous les joueurs se disent « Ah, il vient d'être terminé, donc là maintenant les joueurs sont en train de mettre les richesses sur leur bateau. Donc on va y aller. » Et c'est à ce moment-là. Ils ont fait le plus dur, ils ont tué tous les squelettes, tous les monstres et tout ça, et maintenant ils sont en train de charger l'or sur leur bateau. On va y aller, on va couler le bateau, on va récupérer l'or. Ils auront fait ça pour nous. Donc, s'installer dans un fort, faire une sorte de mini-RP, c'est un peu risqué une fois que tu l'as terminé.
Voilà, et dernièrement, donc, ils remodèlent certains, ce qu'on appelle les avant-postes, qui sont des petites îles, au fur et à mesure, pour créer de nouvelles histoires. Donc voilà, c'est les actualités de Sea of Thieves. Et je tiens à dire que le jeu de rôle donne vraiment envie, même s'il a l'air assez simpliste, ça permet pour justement ces fans de jeux vidéo de sortir un peu et rencontrer des gens IRL, même si je suis sûr qu'ils vont jouer en ligne chacun devant leur PC, tu vas me dire.
Oh oui, de toute façon, c'est surtout que c'est un monde où tu rencontres des pirates et... Outrepasser le fait que 99% de fois tu as t'as même pas le temps de dire bonjour, que t'as déjà un boulet qui part et qui arrive sur ta coque de bateau, mais une fois passé ça tu peux commencer à discuter parce que t'as le chat vocal qui est ouvert dans le jeu, et ça discute forcément beaucoup en anglais, et pouvoir après commencer à discuter, faire des alliances, même juste rigoler, aller boire des coups à la taverne et boire du rhum avec des gens et que tu discutes 5 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est un MMORPG, enfin, c'est un monde type MMORPG et tu peux le faire.
C'est pas forcément celui où tu te dis que tu vas le faire, mais, voilà. Mais dans le fond, des fois, ça peut se produire. Alors, 70 livres pour le box, la version physique, et quand même 30 livres pour la version PDF. Ça picote un peu.
Ça picote, ouais.
Alors, on va terminer avec un peu de robotique. Alors, a eu lieu récemment l'IREX 2022, qui est un peu l'un des principaux salons de robotique au Japon. Ça tombe bien, puisqu'on s'est baladé un peu dans le Japon musicalement pendant cette heure. Alors, il y a plusieurs types de robots. Il y en a des passionnants, il y en a des beaucoup moins.
Ah, il y en a qui sortent d'un shonen, hein, je te le dis.
Alors, le premier robot qu'on va présenter ici s'appelle le Kawasaki Robotics. Et il a une particularité, donc c'est qu'il est humanoïde et il arrive donc à se tenir debout, ce qui mine de rien pour nous semble vraiment basique, mais qui reste quand même une prouesse de faire des mouvements avec un robot et de rester sur cette position en équilibre. Et lui, attention, même s'il le fait très lentement, a la capacité de marcher des marches, d'escalader des marches,
voilà.
Et de marcher comme s'il était en équilibre sur une poutre. Voilà, voilà, merci. Le Honda.
Au moins, c'est une avancée, tu vois, chacun a sa faute de français, mais au moins par rapport au chien de Boston Dynamics, où lui, il avait un centre de gravité et quatre pattes pour être beaucoup plus stable, ce qui lui permettait d'escalader quel que soit l'obstacle, pas de problème. Là, on parle quand même d'un robot humanoïde qui est sur deux pattes, donc, et qui fait pratiquement 2 mètres, qui est assez lourd, qui a un centre de gravité, qui change. Donc, c'est quand même une prouesse, faut l'avouer.
Et pour la même boîte, ils ont donc la version quadrupède, qui ressemble un peu à un... J'ai envie de dire un cheval, mais c'est pas gentil pour le cheval.
Ah ouais, là non.
Et donc il a des roues, mais lorsqu'il marche avec ses pattes, vous voyez la personne dessus qui sursautit, mais de façon frénétique. Et je me dis, c'est vraiment le pire des moyens de transport, c'est ce truc qui n'avance pas et qui vous fait trembler de manière intempestive.
Et là, en regardant la vidéo justement de la présentation de ce robot, tu as l'impression que l'adulte est sur un manège que tu avais quand tu étais jeune, dans les entrées de grandes surfaces, où ta mère elle te disait tu veux faire un peu de moto, et toi t'étais sur ta moto et tu bougeais dans tous les sens, le temps que ta mère elle allait chercher sa baguette, elle revenait et elle c'est te
ça.
Récupérait.
Mais ça c'est la version
version adulte
du manège qui marche pas.
Voilà.
Mais vraiment ce qu'on va voir dans ce salon de l'IREX 2022, ce sont les avancées technologiques sur la VR couplées à la robotique, où donc des personnes dotées d'un casque VR avec des manettes VR vont contrôler un robot. Et ça, vraiment, les avancées se font à ce niveau-là. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt ? L'intérêt peut être au niveau médical.
Ce qui est déjà le code pour certaines opérations.
Donc, d'avoir un chirurgien, par exemple, qui opère à distance. Mmh. Donc là, on a des démonstrations qui sont faites. Ça peut aider aussi des personnes à mobilité réduite pour effectuer des actions dans leur domicile ou autre qu'elles ne peuvent pas faire, mais avec un casque VR, dans ce cas-là, c'est réalisable. Et on peut voir, donc y a plusieurs robots. Hein. Y a le Honda, j'ai pas forcément la liste sous les yeux des restants, mais c'est vraiment impressionnant. Et les autres sont des robots qui vont réussir à jouer avec des instruments de musique qu'on avait d'ailleurs retrouvé dans l'émission Twitch qu'on avait fait il y a 2 semaines. Je vous laisse vous replonger là-dedans. Allez, on va se quitter en musique avec un groupe. Alors, tu avais écouté la liste des musiques japonaises que j'ai proposées et celle-ci t'avait particulièrement interpellé. Elle s'appelle Memories and the Limit.
Ouais. C'est la version un peu punk des Japonais, c'est celle-là ?
Effectivement.
Voilà. Ils ont très bien compris la cassure du rythme musical.
Alors, le groupe s'appelle Envy. Et c'est un nouvel album qui nous propose, donc ça nous permettra d'écouter ça calmement pour terminer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et comme on vous le dit chaque semaine, portez-vous bien.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
La meilleure message jamais.
Radio Campus, il est 19h.